Rapidement, je vais vous partager un point ou deux à propos de l'intercession. Vous avez compris que cette semaine a été un peu bousculée, un peu bouleversée. Mais l'intercession, c'est important. La prière, c'est important. Et Dieu veut susciter des intercesseurs dans l'Église. Et je crois que tout le monde peut être candidat pour devenir un intercesseur. Seulement, ça demande du temps d'enseigner et d'expliquer ce qu'est un intercesseur. Parce que beaucoup d'intercesseurs font fausse route. Or, nous ne voulons pas être des intercesseurs qui nous trompons de combat et qui ne combattons pas selon les armes et les lois de Dieu. Nous voulons être des intercesseurs puissants qui combattent avec les armes de Dieu et qui remportent les victoires. Parce que les intercesseurs gagnent des victoires. Les intercesseurs sont des gens extraordinaires et exceptionnels. Et ils ne sont pas censés être des gens, juste quelques personnes comme cela, qui peuvent intercéder. Nous sommes tous appelés à prier et à intercéder et à être remplis du Saint-Esprit. Parce que l'intercession marche main dans la main avec le Saint-Esprit. Vous ne pouvez pas intercéder et prier si vous n'êtes pas plein du Saint-Esprit. Parce que l'intercession est une œuvre du Saint-Esprit. Alléluia. Et donc, c'est important de comprendre ce qu'est l'intercession et de savoir comment être un intercesseur, de ne pas nous tromper de combat, mais d'avoir cette puissance. Et tout le monde peut aspirer à être un intercesseur, quand bien même je crois que certains ont vraiment le don, l'appel et le ministère de l'intercesseur. Mais nous pouvons tous être des intercesseurs et nous sommes tous appelés à être un intercesseur. Si Jésus est à l'intérieur de vous, le plus grand intercesseur est en vous. La Bible dit que Jésus est notre grand avocat, il est aussi notre grand intercesseur. Il intercède, Jésus intercède pour nous auprès du Père. Alléluia. Et je crois que lorsque Jésus était sur la terre, une des grandes clés de son ministère a été la puissance de la prière dans sa vie. Et nous voyons que Jésus s'est souvent isolé, mis à part, monté sur des montagnes, séparé des gens pour avoir une relation puissante avec son Père. C'est pourquoi lorsqu'il descendait, il disait aux gens, les paroles que je dis, alléluia, c'est celles que j'ai entendues de mon Père. Je ne parle pas de moi-même, mais c'est mon Père qui parle au travers de moi. Et nous-mêmes, nous avons besoin d'être en connexion avec Dieu. Alléluia. Nous avons besoin de nous connecter avec le Père. Et nous pouvons nous connecter avec le Père, avec notre Père, au travers de la prière. La prière, c'est merveilleux. La prière, c'est parler. Mais la prière, ce n'est pas se lamenter. Parce que si notre vie de prière consiste à simplement se lamenter sur tout ce que nous n'avons pas et tout ce que nous ne sommes pas, nous n'allons pas monter dans les dimensions de la prière. Mais la prière, c'est une prière et c'est un dialogue positif entre nous et Dieu. C'est un dialogue de foi et d'amour, n'est-ce pas? Lorsque vous parlez à votre mari et à votre femme, si la communication dans votre couple se limite à dire et à parler de tous les problèmes qu'il y a dans la maison, eh bien, vous n'aurez pas une forte communication ensemble. Mais par contre, la communication dans un couple, c'est beaucoup de choses. C'est se dire aussi les choses que l'on aime, les choses que l'on apprécie l'un envers l'autre. Alléluia. Merci pour vos amen. C'est se dire des belles choses, n'est-ce pas? C'est se louer l'un l'autre. Alléluia. Et tous les couples disent amen. Arrêtez de critiquer votre conjoint. Vous ne pouvez pas aimer ce que vous critiquez. Parlez des paroles positives sur votre conjoint. Louez-le. Je sais que ce n'est pas facile. Mais c'est la clé de l'amour. Si vous voulez plus d'amour dans votre mariage, faites taire les paroles difficiles, n'est-ce pas? Quand bien même elles sont vraies. Quand bien même c'est la vérité. Mais mettez ces paroles de côté et louez votre conjoint. Comme tu es beau. À qui tu parles. Comme tu es belle. Comme tu cuisines bien. Hey, combien de maris mangent le repas de leur femme cuisiné avec amour jour après jour? sans même dire un mot. Sans même dire c'est bon. Sans même dire merci. Hey! Qu'est-ce que c'est que ça? Vous avez besoin d'apprécier, de louer, de remercier, de mettre de la grâce dans vos relations. Alléluia! C'est comme ça que vous allez avoir un bon dialogue, une bonne communication. Comme c'est bon ce que tu as fait aujourd'hui. Comme tu as bien nettoyé la maison. Vous pensez que c'est normal? Vous pensez que c'est... que... mais non! Vous devez apprécier, rentrer à la maison, ça sent bon. C'est parfumé. C'est aspiré. C'est nettoyé. C'est rangé. Oh! Vous devez dire des belles choses. Vous savez, les bonnes paroles multiplient l'amour dans notre cœur. Si nous avons besoin de plus d'amour, nous devons donner et semer des paroles d'amour et d'acceptation et d'appréciation. C'est la même chose dans la prière. Notre relation avec notre Père est possible quand nous reconnaissons qui il est, quand nous lui ouvrons notre bouche, notre cœur, et que nous avons envers Dieu des paroles d'amour. Seigneur, tu es bon. Prenez le psaume 103. Je vais vous dire, si quelqu'un est déprimé et si quelqu'un ne se sent pas bien, eh bien, lisez et lisez le psaume 103. Vous allez dire, oh mon Dieu, tu es merveilleux. Waouh, tu es ce Dieu-là si formidable. J'ai aimé beaucoup le psaume 103 et je vous encourage à rester à méditer sur ce psaume pendant toute la semaine. C'est plein de vitamines. C'est vraiment un jus multivitaminé qui va vous donner de l'amour pour Dieu. Tu pardonnes toutes mes iniquités, tu guéris toutes mes maladies. Alléluia. J'aime cette parole. C'est l'Éternel. Et trois fois, il dit, c'est lui qui pardonne tes iniquités, toutes tes iniquités, et qui guérit toutes tes maladies. C'est lui, c'est lui. Alléluia. Magnifique psaume. Mes amis, quand vous donnez, quand vous réalisez qui est Dieu, vous avez de l'amour dans votre cœur. Vous verbalisez cet amour et il y a de la louange. Et vous avez une connexion avec Dieu. La puissance de la vie de prière de Jésus, n'est-ce pas, la puissance de son ministère plutôt terrestre, est venue de sa vie de prière, parce qu'il avait une relation avec son Père. Nous avons besoin désespérément dans ce monde dans lequel nous sommes occupés, affairés, tirés de tous les côtés, d'avoir une relation avec notre Père. D'ailleurs, pourquoi est-ce que vous venez à l'église le dimanche? Pourquoi est-ce que vous venez à l'église même le dimanche matin et le dimanche après-midi? Parce que lorsque vous venez à l'église, que vous repartez de l'église le soir, vous êtes fort, vous avez la niaque pour affronter cette semaine. Chaque semaine est un combat, chaque semaine est difficile. Pour chacun d'entre nous, chaque semaine, il y a des nouvelles auxquelles il faut faire face, il y a des rendez-vous qu'il faut affronter, il y a des situations, il y a plein de choses. Oh my, il se passe tellement de choses dans une semaine. Tellement de choses s'est passé rien que dans ma semaine ici. Cette semaine, il y a tellement de choses dans une semaine. Mes amis, nous avons besoin de venir à l'église le dimanche parce que nous sommes remplis le dimanche et parce que nous sommes connectés au Père et que nous avons cette force pour affronter la semaine. Mais pas seulement le dimanche, nous devons avoir cette vie de prière puissante. Donc Jésus avait une vie de prière puissante. Mais non seulement il avait une vie de prière puissante, mais il a aussi prié et intercédé pour nous. Et je suis sûre que non seulement il a prié pour son Père, mais il a intercédé pour nous. Et je crois que le summum de son intercession, est-ce que quelqu'un m'entend? Le summum de son intercession s'est produit à Gethsémané. À Gethsémané, Jésus a intercédé. Jésus était dans la prière et il est allé voir ses disciples et il leur a dit, ne pouvez-vous prier avec moi une heure, ne serait-ce qu'une heure. Et voyez-vous, c'est dans Luc 22, verset 39, il est écrit, après être sorti, il alla selon sa coutume à la montagne des Oliviers et ses disciples le suivirent. Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit, priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Donc nous devons comprendre que la prière, elle nous protège de tomber. Quand vous priez, vous n'allez pas tomber. Mais prier, ça veut dire quoi? prier, c'est avoir une relation avec Dieu. Donc, vous ne pouvez pas économiser votre relation avec Dieu. Vous avez besoin de maintenir et protéger votre relation avec Dieu et la développer. Priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Jésus leur prophétisait que s'ils priaient à cette heure-là, ils n'allaient pas fuir, être dans la peur et non préparés quelques heures plus tard. Mais parce qu'ils n'ont pas prié là, avant, ils ont eu du mal à faire face à après. Maintenant, la grâce de Dieu est là. Dieu les a aidés. Mais ils sont passés par un moment difficile. Que s'ils avaient pu prier avec Jésus, ils se seraient connectés à l'Esprit de Dieu. Ils auraient mieux compris les choses et ils auraient peut-être réagi mieux. Ça aurait été moins difficile pour eux. Donc Jésus leur dit prophétiquement, priez maintenant, afin que vous ne tombiez pas en tentation. Parce qu'il y avait un moment difficile en face. Et d'ailleurs, c'est important de prier avant de faire face à des moments difficiles. Et il est écrit, il s'éloigna d'eux à distance d'environ un jet de pierre et s'étant mis à genoux, il pria en disant, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. C'est merveilleux que dans la prière, Dieu nous envoie un ange. Et Jésus a prié vraiment de tout son cœur. Dieu lui a envoyé un ange. Et ce moment était évidemment un moment très difficile et très intense. Il était dans l'agonie. Il est écrit, étant en agonie, il priait plus instamment. Et je crois vraiment que Jésus, dans ces instants, était en train d'intercéder. Alléluia. Il était dans une profonde intercession. Il était en train de prier. Et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient par terre. Après avoir prié, son intercession est devenue si forte qu'il s'est produit ce que l'on connaît. Il a sué des grumeaux de sang. Waouh! Le sang est sorti de son front tellement cette intercession a été importante. Je pense que là, c'est là où Jésus nous a engendrés. Là, il nous a engendrés par la foi. Il a prié avec une immense intensité. Et c'est là où, véritablement, Jésus est mort, là, ici, pour nous, à ce moment-là. Il a accepté la mort spirituelle et il nous a donné la vie éternelle. À Gethsémané. Pourquoi c'est un lieu extrêmement important. Et il est écrit, donc, après avoir prié, il se leva et il vint vers ses disciples qu'il trouva endormis de tristesse. Et il leur dit, pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Donc notre plus grand intercesseur, c'est Jésus. La Bible dit que Jésus prie pour nous dans le ciel. Il intercède en notre faveur. Si Jésus intercède pour nous, c'est qu'on a besoin d'intercession. Et l'intercession n'est pas du luxe. L'intercession est nécessaire. Il y a beaucoup de choses pour lesquelles on doit intercéder. Nous devons intercéder pour les nouveaux convertis. Vrai ou faux? Nous devons intercéder pour le salut des gens. La Bible dit qu'ils sont recouverts d'un voile par lequel ils sont aveuglés et ils ne voient pas. Nous n'avons plus ce voile. Lorsqu'il y avait les journalistes qui étaient là ce matin, ils m'ont dit, mais vous dites souvent Amen, Alléluia. Je lui dis, oui, c'est notre patois de Canaan. Nous parlons un langage spécial, ponctué de Amen, Alléluia. Ce langage, ils ne peuvent pas le comprendre parce qu'ils ont un voile. Nous, pour nous, le voile a été ôté. Et nous pouvons voir la gloire de Dieu. Nous pouvons voir les choses spirituelles. Nous avons ce discernement, cette compréhension. Mais les gens qui ne sont pas sauvés, ils ont un voile. La Bible dit que le Dieu de ce monde les a aveuglés. Amen. L'intercession ôte le voile. Une des plus grandes façons d'amener les gens au salut, c'est par l'intercession. Beaucoup d'entre vous, vous avez été sauvés, le salut est venu dans votre vie, parce que peut-être dans vos générations, dans votre passé, ou dans votre famille, eh bien, il y a eu des gens qui ont prié, qui ont intercédé. Lorsque mes parents sont venus à Jésus, rien n'indiquait qu'ils allaient venir à Jésus. Il n'y avait personne de sauvé dans notre famille. Il y avait du côté de mon père de la tradition, de la religion. Il y avait voilà, cette tradition catholique et sans connaissance de Dieu, du respect. Du respect. Et il y a chez les catholiques un vrai respect de Dieu, mais souvent pas de relation et de connexion avec Dieu. Et Dieu est loin, et puis la vie, la consécration, la sainteté, tout ça, c'est loin. Parce que pour ça, il faut avoir une relation avec Dieu. Vous savez, ce qui nous conduit dans la sanctification, ce qui nous conduit dans la sainteté, c'est notre relation avec Dieu. C'est impossible de vivre saint en vivant loin de Dieu. C'est impossible de réformer notre vie, de ne pas faire un certain nombre de choses que tout le monde fait, à moins que Dieu soit à l'intérieur de nous. Parce que c'est le Saint-Esprit, c'est Dieu en nous qui nous convainc de jugement, de justice et de péché. Mais si le Saint-Esprit n'est pas en nous, nous vivons comme le monde. Pourquoi ? Parce que nous sommes aveuglés. Mais quand le Saint-Esprit est à l'intérieur de nous, notre vie est différente. Du côté de mes parents, donc, il y avait donc mon père qui venait d'une tradition plus catholique et ma mère, alors qui venait de rien du tout. Formidable ça. Milieu laïque, ne voulait pas entendre parler de Dieu. Néanmoins, le salut est entré dans notre maison et le voile a été ôté. C'est un voile qui a été ôté. Et nous avons compris que dans la génération de ma mère, il y a eu des protestants. Parce qu'après, ma mère a fait des recherches et elle a vu que son grand-père était protestant. Et il y a dans notre maison familiale, chez mes parents, c'est magnifique, j'aimerais l'apporter même ici, grand comme cela, un tableau grand comme cela. Et c'est tout imprimé en rouge sur une feuille blanche. Et c'est le certificat de baptême, donc pour ma part, de mon arrière-grand-père. Et elle avait un certificat de baptême grand comme ça, imprimé en rouge, parce que c'était important, baptisé en qualité d'adulte, baptisé en qualité, donc en tant que chrétien, qui donnait sa vie à Jésus, et il était ancien dans l'église. Alléluia! Amen! Et vous savez, quand vous avez des racines de gens qui ont été chrétiens dans votre vie, il y a une bénédiction sur les générations. Et il y a cette grâce que pour vous aussi, eh bien, le voile soit ôté. Amen. Et donc rien ne disposait ma mère à chercher Dieu et à s'approcher de Dieu. Et pourtant, il y a eu une grâce spéciale. C'est pourquoi nous devons prier, nous devons intercéder pour les nouveaux convertis. Dis à ton voisin, prie pour le salut des âmes. C'est une immense responsabilité que Dieu nous a donnée. Et le salut des âmes, nous devons les enfanter dans la prière. Un réveil s'enfante dans la prière. Il n'y a pas eu de réveil qui est venu dans notre monde sans qu'il ait été enfanté dans la prière. Maintenant, je vais vous dire une chose. Je ne sais pas si ce qu'en pensent les mamans ici, mais ce n'est pas très drôle d'enfanter. Ce n'est pas la chose dont on rêve. On rêve du bébé, mais beaucoup moins du moment de l'enfantement. Hein? Parce que l'enfantement, c'est un effort. Il faut pousser. Poussez, madame, poussez. Eh bien, dans l'intercession, il faut pousser. Il faut enfanter par l'esprit. Il ne faut pas pousser par la chair. Les gens, ils s'égosillent. Et ils ont une voix forte déjà, alors ils prient plus fort que tout le monde. Mais il ne s'agit pas de prier dans la chair, il s'agit de prier dans l'esprit. Je crois personnellement que l'intercession, dans l'intercession, nous lions les œuvres de l'ennemi. Nous lions les œuvres du diable et nous devons le faire. Très très important. Mais l'intercession, c'est plus une prière avec Dieu qu'une prière contre l'ennemi. Ça, c'est vraiment une chose, un des piliers que je veux apporter dans l'enseignement sur l'intercession. Oui, dans l'intercession, il y a une prière de guerre. Évidemment qu'il y a un combat spirituel, mais ce n'est pas que ça. L'intercession, c'est prier avec Dieu. C'est un partenariat avec Dieu. Et dans cette prière intense que l'on a entre nous et Dieu, cette prière libère les miracles dans la vie des gens. Libère la provision, libère les réponses, libère les portes ouvertes, change les choses. Alléluia. Donc Dieu veut que nous prions, que nous intercédions pour le salut des âmes. Les âmes ne sont pas sauvées juste comme ça. Quand il y a un réveil, oh, le Saint-Esprit est balayé sur une nation, par exemple, les gens sont sauvés comme ça. Pourquoi ? Parce que dans le royaume, dans le monde de l'esprit, dans le royaume spirituel, il y a eu une percée puissante, au point que les cieux se sont ouverts, l'Esprit de Dieu est descendu, et maintenant, le salut se fait comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Mais quand on n'est pas dans des temps de réveil, il y a eu de grands réveils en Angleterre, il y a eu de grands réveils en Europe, et des réveils qui ont notamment balayé l'Angleterre d'une puissance extraordinaire. Lisez sur les réveils, notamment en Écosse et en Angleterre, des réveils extraordinaires où les gens se mettaient à genoux dans la rue, les gens confessaient leurs péchés, les gens étaient convaincus de péché, ils étaient convaincus de Dieu. Il y avait une telle puissance de réveil. Alléluia. Maintenant, quand on n'est pas dans un temps de réveil, eh bien, on doit prier et intercéder pour les âmes pour qu'elles soient sauvées. Donc, le rôle de l'Église et des enfants de Dieu, c'est d'intercéder pour le salut. Amen. Nous devons intercéder pour notre famille. Chaque enfant de Dieu a besoin de prier et d'intercéder pour son couple. Amen. Pour son mariage, pour sa famille, pour ses enfants. Nous devons les couvrir, nous assurer que tous les jours, ils sortent couverts. Par le sang de Jésus et la protection de Dieu. Grande responsabilité, amen. Et nous devons aussi prier pour notre Église. Très, très important de prier pour l'Église, de prier pour les leaders de l'Église, de les couvrir. Vraiment de mettre une dose très puissante de prière autour de ceux qui sont sur le front, sur le devant et qui servent Dieu. Amen. Et nous devons prier pour l'Église en général, pour lier toutes les attaques de l'ennemi, repousser les loups, empêcher toutes les œuvres des ténèbres. Vraiment prier dans le monde spirituel. Et nous devons prier aussi pour la nation. Amen. Et je crois qu'il y a des intercesseurs spécifiques qui prient pour la nation, ou même les nations. Dieu nous appelle à intercéder. Et c'est une chose qui doit rentrer dans notre cœur. Aimer intercéder. Maintenant, l'intercession a plusieurs sens. Et je ne pourrai pas vous partager tous les sens. Mais j'aimerais vous dire une chose. L'intercession bâtit un mur. S'il y a un des sens dont vous devez vous souvenir de l'intercession, c'est que l'intercession construit un mur. L'intercession bâtit une forteresse, une muraille, une protection autour de la personne. Et nous devons bâtir des murs par l'intercession. C'est pourquoi Néhémie est un grand intercesseur. Et il est une grande figure de l'intercession. Au même titre qu'Esther est aussi une autre figure de l'intercession. Au même titre qu'Abraham a été un grand intercesseur. Élie, Moïse, Jésus, Paul, qui disait « Je donne encore naissance, je suis encore en train d'éprouver les douleurs de l'enfantement pour vous, Galates. » Priez, il intercédait pour les Galates. Amen. Néhémie est un des grands symboles de l'intercession. Il est celui qui va bâtir un mur, une muraille, une forteresse pour protéger la ville, pour protéger les gens, pour protéger le temple, pour protéger l'œuvre de Dieu. Nous devons être des Néhémies. Alléluia. Gloire à Dieu. Regardez ce qui est écrit très rapidement dans Néhémie 6. Chapitre 6, verset 1, il est écrit « Je n'avais pas encore posé les battants des portes lorsque Sambalat, Tobija, Geshem, l'arabe et nos autres ennemis apprirent que j'avais rebâti la muraille et qu'il n'y restait plus de brèche. » Donc Néhémie vient de rebâtir la muraille. Alléluia. Et donc, lorsqu'il vient de rebâtir la muraille, qu'il a construit toute cette muraille, voici que les ennemis viennent. Pourquoi? Parce qu'ils n'aiment pas du tout que la muraille soit reconstruite. Or, l'intercession va bâtir une muraille autour des gens. Nous avons besoin de murs de protection. J'ai besoin de murs de protection. J'ai besoin de puissants intercesseurs autour de moi. Des gens qui prient puissamment par l'Esprit et qui bâtissent une muraille continuelle dans laquelle il n'y a pas de faille, dans laquelle l'ennemi ne peut pas pénétrer. De la même façon, votre famille a besoin d'intercession. Parce qu'il y a des failles. Je vais vous dire une chose, il y a toujours des failles. Dans toute muraille et dans tout mur, et dans toutes les vies ici, il n'y a pas une vie qui soit parfaite. Et ma vie n'est pas parfaite, votre vie n'est pas parfaite, votre famille n'est pas parfaite. Il y a des failles. Et l'ennemi est spécialisé dans le fait de repérer les failles. Il n'entre jamais là où c'est fort et c'est solide. Il cherche une brèche. Il cherche une faille. Or, l'intercession vient colmater les failles, réparer les brèches. C'est pourquoi il est écrit, on t'appellera réparateur des brèches. Celui qui bâtit sur des vestiges anciens, c'est l'intercesseur. L'intercesseur est le réparateur des brèches. L'intercesseur met une protection là où il n'y a pas de protection. L'intercession monte un mur autour de l'Église, autour des enfants de Dieu, autour du pasteur, autour des leaders, autour des nouveaux convertis. L'intercesseur est extrêmement puissant. C'est le guerrier. Comme on a dit dans une ruche, la ruche est extraordinaire. C'est un modèle de société parfait. La ruche, c'est l'exemple même d'une société parfaite. Dans une ruche, il y a ceux qui pondent, qui s'occupent des œufs. Il y a ceux qui vont chercher la nourriture. Il y a ceux qui nettoient. Il y a ceux qui bâtissent. Et il y a ceux qui font la guerre. C'est magnifique, la ruche. C'est magnifique, le monde des abeilles et des fourmis. Tout le monde est appelé à être un intercesseur. Mais il y en a qui sont plus encore appelés que d'autres à se tenir et à rester dans l'intercession. Ces gens-là sont les guerriers. Ils se battent, ils colmatent les brèches. Alléluia. Donne un coup de coude à ton voisin et dis-lui, sois un intercesseur, arrête de dormir. Je vous endors ce soir avec mes intercessions. Je vais vous faire intercéder maintenant. Hey! Dis à ton voisin, ne dors pas. Si Pasteur te voit les yeux fermés, elle va te faire intercéder. Alléluia. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? C'est pas que je m'en rappelle pas, hein, je me rappelle très bien ce que j'étais en train de dire. Les intercesseurs, ce sont les guerriers. Puissants guerriers, ce sont des bâtisseurs. Ce sont des gens qui protègent. Ce sont des gens qui libèrent la parole de Dieu. Ce sont des gens qui sont puissants dans l'esprit. Ils sont incisifs. Alléluia. L'Église a besoin d'intercesseurs. Et je parle aux intercesseurs de l'Église. Je dis, intercesseurs, soyez forts dans le nom de Jésus. Tenez ferme dans le nom de Jésus. Protégez votre cœur. Restez à votre place. L'œuvre de Dieu a besoin de vous. J'ai besoin de vous. L'avenir a besoin de vous. Le royaume de Dieu qui est à enfanter, les projets de Dieu qui sont à enfanter ont besoin de vous. Nous avons besoin de vous. Je prie que tous les intercesseurs de cette église soient à leur place et qu'ils accomplissent le ministère dans lequel Dieu les a appelés. Et je prie non seulement qu'ils fassent leur œuvre, mais qu'il y ait plus d'intercesseurs. Que Dieu suscite dans cette église plus d'intercesseurs au nom de Jésus. Je les appelle dans le nom de Jésus. J'appelle le fardeau pour intercéder. Je prie, Seigneur, suscite plus d'intercesseurs dans l'Église. Suscite plus d'hommes et de femmes qui vont recevoir le fardeau du Saint-Esprit et qui vont se tenir sur la brèche. Ce n'est pas qu'il n'y a pas de brèche, mais le danger, c'est qu'il n'y ait pas d'intercesseurs qui se tiennent sur la brèche. C'est sérieux. Je terminerai. J'ai beaucoup de choses à dire, mais je ne veux pas être plus longue. Dans Ézéchiel 22, au verset 30, Dieu dit, je cherche parmi eux un homme qui élève un mur. Et moi, je dirais un homme et une femme. Qui élève un mur? Qui élève un mur? Qui élève un mur? Recevez l'appel pour l'intercession. Et je parle par l'Esprit ce soir. Je prie dans le nom de Jésus. Recevez l'appel à l'intercession. Je veux être entouré d'intercesseurs. Je veux que les gens de mon bureau intercèdent. Je ne veux pas qu'ils prient. J'ai besoin d'intercesseurs. Je veux des gens qui montent dans une plus grande dimension d'intercession. Alléluia. Est-ce que vous êtes dans Ézéchiel 22, verset 30. Je cherche parmi eux un homme, une femme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche. Un intercesseur ne se tient pas là où c'est fort, là où c'est protégé. Il se tient là où c'est faible. Là où il y a un danger, là où il y a une faiblesse, là où il y a une faille. Et j'aimerais vous dire, il y a toujours des failles. On est des êtres humains. Parfois on est faible dans ceci. Parfois on fait des erreurs. Parfois on ouvre des portes. Parfois on ne veille pas bien. Mais les intercesseurs sont des gens exceptionnels parce qu'ils se tiennent à la brèche. Ils se tiennent sur les points faibles du ministère. Ils se tiennent sur les points faibles de nos caractères. Et ils protègent. Ils ne jugent pas, ils ne condamnent pas, mais ils protègent. Et moi, je dis que les intercesseurs ne perdront pas leur récompense. Les intercesseurs sont des gens exceptionnels, qui ont reçu un ministère exceptionnel. Jésus lui-même a ce même ministère. Dieu appelle toute l'Église à être des intercesseurs. Les intercesseurs comprennent leur rôle, comprennent leur mission, comprennent leur importance, savent ce qu'ils font. Ils sont des gens qui voient dans l'esprit, qui reçoivent un fardeau spirituel, qui se battent, qui prient, qui intercèdent, jusqu'à ce qu'ils soient libérés dans l'esprit. Jusqu'à ce qu'ils aient la paix. Les intercesseurs sont très, 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 très importants. Je veux donner vraiment toute la place aux intercesseurs, et toute l'estime et toute la reconnaissance aux intercesseurs dans ce ministère. Mais je dis qu'il y a besoin de plus d'intercesseurs. Or, les intercesseurs sont des gens courageux. Ce sont des gens qui payent un prix. Et comme je le dis, ils ne perdront pas leur récompense. C'est plus facile de s'asseoir devant la télé et de regarder le foot que d'être un intercesseur. Mais les intercesseurs ne perdront pas leur récompense. Ils auront une grande récompense dans le royaume de Dieu. Ils ont enfanté dans l'esprit. Très, très important que les intercesseurs. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi, en faveur du pays, afin que je ne détruise pas. Mais dit-il, je n'en trouve point. Je ne trouve pas de quoi ? Dieu ne trouve pas quoi ? Il ne trouve pas d'intercesseur. Des vrais intercesseurs se trouvent difficilement. Il y a peu de vrais et de puissants intercesseurs. Mais il y a besoin de plus. Mais Dieu va les trouver maintenant, au nom de Jésus, par le Saint-Esprit. Alléluia. Est-ce que ça vous parle ce soir? Amen. Alléluia. Amen, 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 amen. Le royaume de Dieu est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Il y a une violence, une certaine violence dans l'esprit et dans la prière. Comme je le dis, pas toujours contre le diable. Oui, pour partie. Mais pas que. L'accouchement n'est pas contre le diable. Quand vous accouchez, vous n'êtes pas en train de vous battre contre le diable. Quand vous vous battez contre les œuvres de l'ennemi, c'est de l'intercession, c'est une guerre spirituelle. Et quand vous accouchez, vous n'êtes pas en guerre contre le diable, vous êtes en partenariat avec Dieu. Comme le mari tient la main de sa femme, et il fait la respiration, il allaite. Comment il fait à côté de sa femme? Il tient sa main. De la même façon, le Père tient notre main. Il souffle avec nous. Mais nous poussons par l'Esprit pour enfanter le bébé, pour enfanter le miracle, pour enfanter la percée, pour enfanter la puissance de Dieu, pour enfanter les projets de Dieu. L'intercesseur enfante les projets de Dieu. Amen. Je vais m'arrêter ici. Je vous encourage à être des intercesseurs. Amen, 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 amen. Je vous encourage à ne pas penser que vous êtes une pauvre, petite, faible personne, mais à penser que vous êtes fort, que Dieu a besoin de vous, que vous pouvez devenir un puissant intercesseur. Vous avez besoin d'avoir la sagesse de l'intercesseur pour ne pas tomber dans les pièges de l'intercesseur, parce qu'il y a des pièges. Il y a le piège de l'orgueil, il y a le piège de l'insoumission, et il y a le piège de voir le diable sur toutes les chaises. C'est vrai ce que je dis. Mais si vous êtes enseigné pour ne pas tomber dans les pièges, vous pouvez devenir de puissants intercesseurs qui vont libérer le royaume de Dieu. Applaudissons le Seigneur. Alléluia.